Bonjour à tous, vous êtes toujours sur Radio Prévert 105.9 à Chalon-sur-Saône.
Gagner une Coupe du Monde, c'est ce qui représente le plus, c'est la victoire
d'une
vie pour
l'éternité. Les états de crise, à mon avis, révèlent le meilleur et le pire.
Quand on est prof d'histoire, c'est de faire prendre conscience aux élèves que c'est vraiment des choses qui sont passées.
Certains pensent que ce roman est un peu prémonitoire.
La musique, c'est un peu comme le temps, tu sais ce que c'est, jusqu'à ce que tu essaies de le définir, tu vois.
L'interview de Radio Prévert.
Bonjour et bienvenue sur Radio Prévert. C'est Alice et en ce vendredi 24 mars 2023, j'accompagne une classe de 6e du collège pour une interview avec l'auteur Véronique Petit. Ce projet se déroule dans le cadre du Salon du Livre Jeunesse du 24 au 26 mars, Parc des Expos de Chalon. Voici un petit résumé du livre « La drôle d'histoire des enfants raspailles » de Véronique Petit, présenté par Véronique Petit.
Alors, un résumé du livre. Nos quatre enfants, Zélia, 4 ans, je ne sais plus les âges, Pablo, 10 ans, Garance, 12 ans et César, 13 ans. Donc un jour, ils vivent seuls avec leur maman. Leur père est parti quand la dernière Zélie était tout bébé. Et un jour, leur mère n'arrive pas. Et ils reçoivent un appel de l'hôpital, leur mère est coiffeuse à domicile. Ils apprennent qu'elle s'est fait renverser par une voiture, voilà, qu'elle est hospitalisée, qu'elle est dans le coma. Ils font croire en fait à la personne de l'hôpital qui les informe, qu'ils ne sont pas seuls, que leur père est là. Parce qu'ils disent « Ouais, mais si on dit qu'on est seul, qu'est-ce qui va nous arriver? On va être placé. » Donc le lendemain, ils vont voir leur mère pour avoir des nouvelles. Et là, l'assistante sociale leur dit « Mais enfin, où est votre père ?» Alors ils essayent de baratiner en disant « Mais il n'est pas là, mais il travaille, mais bon, il va venir. » Et l'assistante sociale leur dit « Mais votre père a intérêt à être là demain. Autrement, je vais vraiment me poser des questions sur sa présence réelle. » Et les enfants, du coup, ils disent « Faut à tout prix qu'on se trouve un papa, quelqu'un qui peut jouer le rôle de notre père pour éviter un placement et on a jusqu'à demain. » Et donc, une partie de l'histoire, c'est la recherche de ce faux papa. Et ils finissent par décider d'embaucher un SDF. Donc, il l'aide à se relooker, etc. En sachant que tous les enfants ne sont pas forcément d'accord, mais qui joue le rôle à merveille. Donc, l'assistant social les croit. Il rentre tranquille, il remercie le SDF qui s'appelle Emmerich. Et puis voilà, tout rentre dans l'ordre. La maman, elle commence à aller un petit peu mieux. Ils disent, bon, d'ici 2 semaines, elle sera là. Et le lendemain, ils rentrent chez eux et ils trouvent Emmerich, le faux papa, installé dans leur salon. Et Emmerich qui dit « Ah non, mais moi je suis là, j'y reste. » Et puis eux, ils disent « On va prévenir la police. » Ben, ils disent « Oui, c'est ça, prévenez la police, dites-leur que vous êtes seul et vous allez voir ce qui va se passer. » Après, Emmerich, la question c'est qui est cet homme ? Est-ce qu'il est dangereux pour les enfants ? Est-ce qu'il n'est pas dangereux ? Alors, certains des enfants ont peur de lui, d'autres pas. Petit à petit, il va créer des alliances avec un enfant, puis le deuxième, puis le troisième, puis au final avec le quatrième. Et il va aider en fait la famille à se reconstruire. Et voilà. Puis je ne veux pas en dire plus parce qu'il faut un peu lire l'histoire aussi.
C'est le moment de passer à l'interview des élèves.
Je ne vais pas me présenter parce que ça se trouve, ça risque d'arriver en cours de... En cours d'échange, en fonction de vos questions, et voilà. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous est prête à commencer ?
À quel âge avez-vous commencé à écrire ?
Alors j'ai commencé d'écrire quand j'avais 8-9 ans. À l'époque, je faisais du théâtre et j'écrivais en fait pour les sketchs que je voulais jouer. Mais voilà. Après, j'ai commencé à écrire plus sérieusement. À l'adolescence, j'ai eu ma période poème. Après, j'ai écrit des nouvelles. Vous savez ce que c'est, une nouvelle ? C'est une courte histoire. Et il y a souvent des concours de nouvelles. Il y en avait déjà, à mon époque, il y en a encore plus à la vôtre, notamment grâce à Internet. Enfin, vous pouvez chercher concours de nouvelles et vous pouvez avoir toute la liste. Et en fait, les concours de nouvelles, moi, c'est ce qui m'a permis vraiment d'apprendre à écrire. Et quand, à un moment, j'ai fini par en gagner quelques-uns, je me suis dit, allez, ça y est, je peux écrire un roman. C'est pas si simple. Entre écrire une courte histoire et écrire une longue histoire, voilà. Moi, il m'a fallu écrire beaucoup, beaucoup de romans avant d'arriver à en écrire un qui vraiment tienne la route et un que mon éditeur accepte. Et il m'a fallu, quand je dis longtemps, il m'a fallu 15-16 ans.
Avez-vous un autre métier ?
Alors, oui, j'ai un autre métier à côté. Je suis assistante sociale. Je ne sais pas si vous savez un peu, voilà. Je suis amené en fait à rencontrer des familles qui peuvent rencontrer des difficultés dans des domaines divers et donc à les aider, à les accompagner pour résoudre leurs difficultés. Donc moi je travaille comme assistante sociale du lundi au jeudi et donc le vendredi, samedi, dimanche, j'écris.
Qui vous a donné envie d'écrire ?
Donc, ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est vraiment en commençant d'écrire des petites pièces de théâtre. Moi, quand j'avais votre âge, je voulais faire du théâtre mon métier. Je me disais plus tard, je vais être comédienne. Et puis à un moment, je me suis aperçue que je prenais beaucoup plus de plaisir aussi à écrire qu'à jouer. Voilà, donc c'est à ce moment-là, j'ai arrêté le théâtre et je me suis mise à écrire un peu plus, de façon plus sérieuse, plus cadrée et plus soutenue.
Pensez-vous faire ce métier toute votre vie ?
Alors ça, c'est une bonne question. J'ai toujours dit, j'arrêterai d'écrire le jour où, déjà où j'aurai plus d'idées, où ça me coûtera, où je me dirai, ah zut, faut que j'écrive. Là, pour l'instant, écrire, ça m'apporte. Et quand j'écris, je me sens bien, mais le jour où je me dis, ah mince, faut que je m'y mette, j'ai pas envie, je pense que ce jour-là, peut-être que j'arrêterai. Mais je pense que c'est aussi par phase. Il y a des moments où j'ai envie d'écrire, il y a des moments où j'ai moins envie. À chaque roman, je me dis, si ça se trouve, c'est mon dernier. On sait pas. Et je sais pas si à nouveau j'aurai une idée, je sais pas si un éditeur acceptera de me suivre. Voilà. Donc j'espère écrire toute ma vie, mais j'en sais rien. Donc pour l'instant, je continue à écrire.
Vivez-vous dans les alentours ?
Alors moi je suis chalonnaise. Je peux venir ici à pied. Voilà. Donc vraiment pas loin.
Quel auteur ou livre vous préférez ?
Alors en auteur jeunesse, il y a une autrice que j'aime beaucoup qui est Marie-Aude Muraille. Genre, je ne sais pas si vous connaissez, elle a écrit beaucoup, beaucoup de romans pour des âges différents. Et moi, c'est vraiment une autrice qui m'a donné envie. Quand je lis, elle, ses romans, à chaque fois, si à un moment, j'ai un peu moins envie d'écrire, j'ai un peu moins d'idées, je la lis et ça me rebooste. C'est vraiment, elle arrive, en fait, à allier dans ses histoires à la fois de l'humour et de l'émotion. Donc, je ne sais pas si vous avez des livres d'elle au CDI, mais... N'hésitez pas, si vous en avez, n'hésitez pas. Autrement, je lis aussi de la littérature adulte, un peu, de façon un peu large en fait. Je ne sais pas vous, comment vous choisissez vos romans, quand vous allez dans une bibliothèque, vous choisissez comment vos romans ? La couverture, le titre, le résumé ? Moi c'est un peu pareil en fait. Quand je ne sais plus quoi lire, je vais dans une bibliothèque ou dans une librairie, puis je regarde. Et donc parfois je ne sais même pas le nom des auteurs que j'ai lus. mais donc voilà, on en reparlera tout à l'heure des couvertures et de l'importance des couvertures, surtout en littérature jeunesse.
Quel auteur vous inspire le plus ?
En fait, Marie-Aude Muraille en jeunesse. Après... qui m'inspire le plus, c'est pas forcément des auteurs, enfin c'est des auteurs, mais ça peut être des films, ça peut être... moi, c'est ce qui m'inspire vraiment, je sais pas, je me promène. Quand j'ai vraiment pas d'idées et je me dis, je vais plus jamais écrire parce que j'aurai plus jamais d'idées, je sors dans la rue ou dans une grande surface et puis j'essaye de regarder ce qui se passe autour de moi. Et puis parfois, d'une réflexion ou d'une scène que je vois, peut naître une idée. Ou pas, hein, mais autrement, je te dis, en auteur... Aussi, parfois, ce qui peut m'inspirer, justement, quand j'ai plus d'idées, je vais dans une librairie, je regarde les couvertures et je vois un titre. Et je me dis, tiens, cette histoire-là, avec ce titre, j'imagine que c'est ça. Et après, je lis le résumé et je m'aperçois que non, c'est tout à fait différent. Et ça peut me donner aussi une idée d'histoire.
Aimez-vous J.K. Rowling ?
Ah oui, en plus on n'en a pas parlé de J.K. Rowling. Quand on parlait d'inspiration tout à l'heure, moi quand j'ai commencé d'écrire des romans adultes. À mon époque, et vraiment, enfin voilà, moi j'ai 55 ans, donc c'est quand j'avais votre âge, ça date déjà. Et à l'époque, la littérature jeunesse, elle était très peu développée. Elle s'est beaucoup développée au cours, je dirais, de ces 30 dernières années. Mais il y a 40, 45 ans, la littérature jeunesse, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait quoi ? Le Club des Cinq, il y avait Les Six Compagnons. C'est vraiment, toutes les personnes de mon âge ont lu les mêmes choses, parce qu'il y avait très peu de choses, et on passait très vite à la littérature adulte. C'est pour ça que quand j'ai commencé d'écrire, j'ai essayé d'écrire des histoires pour adultes qui n'ont pas été publiées. Et à un moment, je devais avoir à peu près 30-35 ans quand j'ai découvert Harry Potter. Et là, moi, ça a été une révélation, quoi. Je me suis dit, vraiment, en fait, je me rappelle, j'étais en train de lire et j'arrivais pas à laisser l'histoire. C'était l'heure d'aller travailler, puis il fallait que je repose le livre. Et vraiment, j'arrivais pas. Et à chaque pause, je me remettais dedans. Et à un moment, Voldemort revient et je suis arrivée au travail. J'ai dit à mes collègues, Voldemort est revenu. Et oh, les collègues m'ont regardé, ils se sont dit, non, bah, voilà quoi. Et, mais vraiment, et là, ça m'a vraiment renvoyé à quelque chose de magique. Et je crois que c'est aussi pour ça, grâce à J.K. Rowling, que j'ai décidé d'écrire des histoires pour enfants et ados. Parce que je trouve en littérature jeunesse, tout est possible. Vraiment, enfin, on peut. Au niveau imaginaire, tout est possible. Donc pour répondre à ta question de tout à l'heure avec du retard, ouais, J.K. Rowling m'a beaucoup aidé.
Qui vous a donné envie d'écrire des livres pour enfants?
C'est J.K. Rowling. Mais vraiment, c'est ce que je viens d'expliquer, en fait. Ouais, c'est découvrir Harry Potter et découvrir un monde magique où tout est possible. Et en littérature adulte, tout est possible aussi, mais il y a quand même, voilà... Je trouve qu'on va moins loin dans l'imaginaire. Et vraiment, après avoir lu Harry Potter, je me suis dit, allez, on peut aller loin dans l'imaginaire. Et c'est vraiment ce qui m'a donné envie d'écrire des livres pour enfants et ados. Aussi... En ce qui concerne les livres pour ados, je trouve que l'adolescence est une période vraiment très très marquante. Et je trouve que c'est une période où on vit les choses de façon intense. Vous êtes en sixième, vous, mais voilà, vous commencez d'entrer dans l'adolescence. Et vraiment, enfin, je trouve ça une période tellement marquante, tellement intense, où j'avais vraiment envie d'écrire pour cette tranche d'âge-là. Alors ça a été le cas de mon premier roman, et puis ouais, de Maud Abel, Vivre ses vies, enfin voilà. Pas de tous mes romans, mais d'un certain nombre de mes romans.
Écrivez-vous pour des personnes en particulier ?
J'écris pour des enfants et des ados, mais pas des personnes en particulier. Alors, bah, je dis ça. En fait, mon dernier roman, oui, il est pas là, mais c'est Le cœur bavard. Alors, c'est un roman pour ados un peu plus vieux que vous. Ça parle de concours d'éloquence. Je sais pas si vous savez ce que c'est un concours d'éloquence. C'est sur un thème donné. Faut écrire un discours et débattre sur un thème donné. Et on est en concurrence avec d'autres personnes qui débattent sur le même thème. Dans les sujets de ce roman, il y a notamment qu'est-ce que réussir sa vie. Voilà. Et moi, j'ai un filleul qui a aujourd'hui 17 ans, mais qui avait à l'époque, quand j'ai commencé Le cœur bavard, 15 ans. Et qui un jour il m'a dit t'as pas bien réussi ta vie parce que t'es assistante sociale, c'est pas un métier où on gagne beaucoup d'argent. Comme auteur, mes copains te connaissent pas et puis t'as pas une grande maison avec une piscine comme moi. Et là je me suis dit, enfin, j'ai essayé de d'enclencher le débat en lui disant mais pour toi c'est quoi réussir sa vie? Et il me dit pour moi réussir sa vie c'est gagner beaucoup d'argent et être connu. Et du coup, vraiment, c'est suite à ça que j'ai eu envie d'écrire le cœur bavard pour réfléchir sur ce qu'était réussir sa vie, donc en pensant à lui. Mais comme il lit pas, je pense que je l'écris pour lui, en pensant à lui, mais je sais qu'il a pas lu le roman, donc voilà. Mais j'espère que d'autres le liront.
Quel est votre premier livre ?
Il y a mon premier livre écrit et mon premier livre publié. J'ai écrit donc pendant 15 ans, donc à peu près, je crois, 16 romans que j'ai écrits qui n'ont pas trouvé d'éditeur. Vous savez un peu comment ça marche, le monde de l'édition ? Il y a les éditions à compte d'auteur, il y a les éditions à compte d'éditeur. Édition à compte d'auteur, c'est l'auteur qui paye pour être publié. L'édition à compte d'éditeur, c'est l'éditeur qui paye l'auteur pour publier son roman. Moi, je voulais être publié à compte d'éditeur. C'est compliqué. Un éditeur comme le mien, donc Rajo Éditeur, ouais, je dirais à peu près 1 sur 100, on publie à peu près 1 sur 100. De nouvelles auteurs, d'auteurs inconnus. Et donc, j'ai envoyé des romans pendant 15 ans. J'avais choisi 4-5 éditeurs avec lesquels j'aurais aimé travailler en fonction de ce qu'ils publiaient et de ce que j'aimais lire. Et bah, ça a été non, 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 non. Je pense qu'il m'a fallu ce temps-là pour arriver à écrire une histoire qui tienne vraiment la route. Écrire, ça s'apprend. Et moi, je l'ai appris en écrivant. Je veux juste dire, pour toi qui as envie d'écrire et peut-être pour d'autres, il y a des auteurs qui arrivent à être publiés très jeunes. Qui n'ont pas besoin d'en écrire 15 avant de trouver un éditeur. Voilà. Mais moi, il m'a fallu du temps. Et donc, mon premier roman publié, c'est celui-là. C'est Mon beau miroir. Mon beau miroir, donc c'est un... Alors, contrairement à ce que peut laisser penser la couverture, c'est un roman pour ados. Un roman pour ados, c'est une fille qui s'invente une vie parce qu'elle a honte de sa vie, elle a honte de ses parents, etc. Donc, elle s'invente une vie en pensant qu'elle sera plus acceptée si elle s'invente des parents qui, en l'occurrence, gèrent une agence de publicité.
Écrivez-vous seulement des romans ou aussi des BD ?
Alors, j'écris que des romans. En fait, les BD, il y a la partie... Alors, j'aime beaucoup en lire, hein, mais il y a la partie dessin, puis il y a la partie écriture. Alors, moi, niveau dessin, j'ai vraiment un niveau très, très bas. J'ai retrouvé des dessins que je faisais il y a très longtemps, mais quand j'avais 6-7 ans, et je me suis pas beaucoup améliorée depuis. Donc, en fait, c'est un autre travail que je maîtrise pas. Écrire un scénario, alors, pour moi, ça voudrait dire m'associer avec un illustrateur, un dessinateur. Pourquoi pas un jour ? Mais j'en fais pas parce que je dessine pas et je serais obligée de travailler à deux. Et je sais pas comment on fait pour découper l'histoire, etc. Mais pourquoi pas un jour ?
Combien de livres avez-vous écrit ?
Alors, de livres écrits, donc beaucoup, parce que voilà, comme j'expliquais, tous les livres que j'écris ne sont pas publiés, donc j'en ai peut-être écrit, je sais pas, une cinquantaine, j'en sais rien. Publiés, je dirais 14-15 peut-être, publiés, non 12-13, j'en sais rien. Ouais, je crois que je vais atteindre bientôt les 15 publiés. Entre 13 et 15, je pense que le 15e n'est pas encore sorti. Je dirais que celui qui est sorti en janvier, c'est le 14e, mais je suis pas sûr.
Lequel de vos livres est le plus populaire, le plus lu ?
Alors, le plus lu, le plus populaire de tous mes livres, celui qui s'est le mieux vendu, c'est Le Mot d'Abel. Le Mot d'Abel, c'est un roman pour ados, un 6e à la rigueur, je dirais plus 5e, 4e. C'est une histoire qui raconte, en fait, on est dans un univers fantastique, c'est autour de l'âge de 13 ans, chaque enfant reçoit, c'est pas quelqu'un qui décide pour lui, hein, mais reçoit un mot. Il y a un mot qui lui arrive. Et ce mot va déterminer sa vie. Donc un mot, ça peut être un mot super, hein, comme célèbre, riche, ou je sais pas quoi. Ça peut être aussi un mot comme épinard ou un mot comme tuer. Et en fonction des mots, eh ben, la vie peut être très différente. Donc son mot, en général, on le cache. Et toute l'histoire, alors c'est l'histoire d'Abel qui attend son mot, dans la peur, parce que chacun rêve d'un mot magnifique, mais il y en a très peu qui ont des grands mots, et chacun a peur de se retrouver avec un mot terrible comme anéantir, tuer, etc., ou avec un mot ridicule comme poubelle, et voilà, son attente, et puis après il a son mot, et son mot c'est pas du tout le mot dont il rêvait, et c'est comment arriver à vivre avec ce mot-là. Et donc c'est vraiment, enfin moi je voulais écrire sur les étiquettes, réfléchir sur les étiquettes qu'on nous colle, comment se détacher des étiquettes, et comment arriver à grandir et à construire sa vie en dépit des étiquettes. Donc celui-là, en fait, ce qui l'a rendu populaire, il a gagné plusieurs prix, dont deux prix nationaux, le prix Gulli et le prix des Incorruptibles. Grâce au prix Gulli, il y a eu une couverture médiatique importante et vraiment ça l'a lancé. Donc ouais, vraiment de tous mes romans, et actuellement il est sorti en 2018, il y a 5 ans, et je dirais que c'est celui de tous mes romans qui continue à se vendre le plus, le mieux. Alors que souvent la durée de vie d'un roman est assez courte. On parlait tout à l'heure de Mon Beau Miroir. Mon Beau Miroir, vous ne le trouverez plus neuf en édition. Vous pouvez le trouver en numérique, mais il est épuisé, il ne sera pas republié. Voilà, parce qu'il ne se vendait plus assez. Il est sorti il y a 17 ans. Par contre, le Mot d'Abel, il a été réédité. Là, il est ressorti avec une nouvelle couverture. Ouais, c'est vraiment celui qui a le mieux marché et qui continue. Alors, lequel de mes livres je préfère ? C'est une bonne question, hein, parce que souvent, je préfère le dernier. Parce que le dernier, il est voilà, je l'ai écrit il y a moins de temps, je suis encore un petit peu dedans, même s'il se passe quand même pas mal de temps entre le moment où on écrit un livre et le moment où on est publié. Le Cœur bavard, donc, qui est sorti en janvier, je l'avais écrit un an et demi avant. Souvent, j'aime le livre que je suis en train d'écrire, j'ai envie de te dire, parce que je suis dedans, je suis dans l'histoire. Mais autrement, si je fais abstraction de tout ça, Le Mot d'Abel fait quand même partie de mes livres préférés. Parce que c'est vraiment... C'est mon premier roman où j'arrivais à écrire une histoire que j'avais en tête. Souvent, il y a un décalage énorme entre l'histoire qu'on a en tête et l'histoire qu'on arrive à écrire. Et moi, souvent, je suis déçue par ce que j'écris. Et vraiment, avec Le Mot d'Abel, bon, il y a eu plusieurs réécritures, hein, avant d'arriver au résultat final. Mais voilà, j'ai vraiment réussi à aller au bout de l'idée.
Quel livre vous a donné le plus de temps à écrire ?
Alors, le livre qui m'a donné le plus de temps à écrire, j'ai envie de dire Le Mot d'Abel. C'est peut-être aussi pour ça que je l'aime bien, ce bouquin, c'est parce qu'il m'a donné beaucoup de mal. En fait, la première version du Mot d'Abel, donc mon éditeur m'a dit, pour l'instant, on part pas. Enfin, il n'était pas partant pour le publier, mais si j'avais une autre proposition, il était d'accord pour relire et éventuellement pour me guider, parce que vraiment, ça partait dans tous les sens. Il y avait déjà l'idée du mot. Mais en même temps, après, je partais dans une espèce de thriller et mon éditeur me dit « Non, mais faut choisir, tu pars dans tous les sens. » Donc, je l'ai réécrit. Et là, il m'a dit « Ok, maintenant, on peut travailler dessus. » Et après, je l'ai réécrit. Enfin, vraiment, c'est un roman qui m'a demandé 4, 5, 6 réécritures et du coup, beaucoup de mois. Il m'a donné du mal, ce roman-là. Pour ça que je crois que c'est celui que je préfère.
Concernant la drôle d'histoire des enfants Raspail, combien de temps avez-vous mis pour écrire ce livre ?
Donc le temps que j'ai mis pour écrire La drôle d'histoire des enfants Raspail, bah, lui, il fait partie des romans que j'ai écrit le plus vite. Parce que je l'ai écrit sur une période d'été, donc j'étais en vacances, j'avais un mois de vacances. En général, comme je travaille, donc j'écris plutôt le soir, et puis le soir, un peu les week-ends. Et là, j'ai pu passer plus d'heures par jour à l'écrire. Et ouais, je l'ai écrit en à peu près un mois, mais alors, la phase d'écriture, un roman... Il y a deux phases. Il y a deux phases, j'ai envie de dire, même il y a trois phases. Il y a déjà trouvé l'idée. Pour moi, c'est la phase la plus difficile. Tant qu'on n'a pas l'idée, Et l'idée, bah, on la trouve ou on ne la trouve pas. Hein. Par exemple, le mot d'Abel. Avant d'écrire le mot d'Abel, je suis resté peut-être 6-8 mois sans trouver d'idée et à me dire, bah, plus jamais je trouverai d'idée. Et puis tout à coup, voilà, le mot d'Abel, c'est vraiment ça. S'est passé à mon travail, l'idée. Je marchais dans le couloir et je voyais une collègue. J'ai un métier où on rédige pas mal, on rédige des rapports, et elle avait son stylo en l'air, et je lui ai dit en passant, bah tiens, tu cherches ton mot ? Elle me dit, bah oui, voilà. J'ai continué, et puis je me suis dit, oh, mais si justement chacun avait un mot et un seul, et que ce mot le définissait, et l'idée est venue de là, et ça faisait 8 mois que je cherchais l'idée. Donc, une fois que l'idée est trouvée, et les enfants raspaillent, je trouve l'idée m'est venue assez vite. Alors après, une idée, ça fait pas un roman. Une idée, ben, voilà, après il faut la développer, il faut créer l'histoire qui va avec, et ça aussi, c'est assez long. Et une fois qu'on a tout ça, je trouve la phase d'écriture, c'est la plus rapide.
Pourquoi vous avez décidé de créer une famille de 4 enfants ?
En fait, il y a longtemps que je voulais écrire une histoire sur les liens entre les frères et sœurs. Je trouve dans une famille, quand on est plusieurs enfants, je ne sais pas si c'est votre cas, si vous êtes plusieurs enfants, et ce n'est pas toujours facile de trouver sa place. Et je trouve, selon que l'on soit l'aîné, le ou les enfants du milieu, ou le dernier, ça peut influer sur la façon d'être et à terme sur la personnalité. D'ailleurs, il y a eu des études qui ont été faites sur des caractéristiques qui se retrouvent en fait chez les aînés. Alors après, c'est pas à prendre, je veux dire, on parle dans ces études du sens de responsabilité des aînés. Parce que souvent, les aînés, voilà, ils sont autonomes plus vite, ils doivent parfois aider pour les suivants. On parle par exemple aussi pour les enfants du milieu ou l'enfant du milieu dans les familles de 3. Parfois, c'est des enfants qui ont besoin de se faire remarquer en bien ou en mal. Parce que quand on est au milieu, on est pris entre l'aîné qui a une place particulière, c'est le premier. Le dernier qui a une place aussi particulière parce que c'est le dernier. Puis au milieu, bah, on est parfois considéré comme grand, parfois comme petit. Parfois, c'est plus compliqué. Et souvent, les enfants du milieu, moi c'est mon cas, je suis une enfant du milieu, essayent de se faire remarquer d'une façon ou d'une autre. Hein, soit en faisant des bêtises, soit en essayant d'être plus brillant. Enfin voilà. Alors, après, c'est les grandes lignes. Hein. Et donc, je voulais vraiment écrire une histoire là-dessus. Je voulais écrire une histoire qui explore, en fait, les liens très particuliers qu'unit un enfant à son frère, à sa sœur. C'est des liens qui sont faits d'amour, d'attachement, mais pas que. Il y a de la jalousie aussi. Vous qui avez des frères et sœurs, si c'est quelque chose, la jalousie, ça peut être des alliances. Les deux premiers contre le dernier, les alliances qui évoluent. Les deux derniers contre le premier... Ça peut être, parfois, ça peut être aussi du rejet, ça peut être beaucoup de choses et des liens qui évoluent tout au long des années d'enfance. Et je voulais voir justement comment ces liens, comment ça se passait quand l'ensemble des enfants de la fratrie, donc la fratrie c'est l'ensemble des enfants, étaient confrontés à un enjeu commun. Dans cette histoire, l'enjeu commun, bah, c'est déjà éviter le placement en foyer. Donc en cherchant une solution pour trouver ce faux papa. Et après, c'est l'enjeu commun, bah c'est comment faire, comment gérer ce faux papa qui squatte le lit de maman. Voilà, quand la maman est encore à l'hôpital.
Comment avez-vous eu l'idée des prénoms ?
L'idée des prénoms. Les prénoms, alors il y a des prénoms parfois qui me viennent spontanément, comme Pablo. Or je pense Pablo, j'avais dû rencontrer des classes et il y avait un petit Pablo dans les classes que j'avais rencontrées et je l'avais remarqué parce qu'il devait poser beaucoup de questions. Je me suis dit, ah bah tiens. Donc il y a des prénoms qui me viennent comme ça et d'autres prénoms parfois je ne trouve pas. Donc je cherche sur Google, liste des prénoms. Mais là, que ce soit Pablo, César, Garance et Zélie, pour le coup, là c'est vraiment des prénoms qui me sont venus. Pourquoi, je ne sais pas. Mais quand je pensais à eux, c'est les prénoms qui me venaient. Mais ce n'est pas le cas pour tous les romans.
Quel est votre personnage préféré ?
Vous en avez... Alors, quel est mon personnage préféré ? Vous en avez un, vous, de personnage préféré dans les 4 ? Oui, Garance. Alors je ne sais pas si vous avez vu à la fin... On parle un peu de l'auteur. Et en fait, moi, ces personnages-là, alors souvent, bon, c'est des personnages qui n'existent pas, mais qui sont composés de traits de caractère, soit de gens qui m'entourent, soit des miens. Et j'ai vraiment voulu mettre un trait de ma personnalité chez chacun, chez les 4. Donc Zélie, son côté histoire à faire peur, voilà. Garance, son côté rebelle. J'ai un côté parfois un peu contestataire. Pablo, son côté besoin de maîtriser les choses, à compter tout le temps. J'ai eu aussi ce côté-là, un peu moins en vieillissant, mais puis César, ouais, j'ai dit, moi je peux pas passer devant un distributeur de chocolat sans m'arrêter. Enfin, dès que je suis contrarié, je mange. Enfin, du chocolat comme César, quoi. Et ce qui fait que du coup, c'est compliqué pour moi de faire un choix entre les 4, parce que les 4 me renvoient à un trait de ma personnalité.
Pourquoi le père est parti ?
Ah, pourquoi le père est parti ? Dans l'histoire, le père est parti puisqu'il a rencontré une autre femme. Donc il est parti quand Zélie était bébé. Après, si le père était resté, il n'y avait pas d'histoire, j'ai envie de te dire. Donc j'étais obligée, dans le scénario, de faire partir le père, parce que toute l'histoire, elle repose là-dessus. Le père est parti, on ne sait pas où il est. Parce que si on savait, s'il était parti, mais pas loin, ou s'il était parti en laissant son adresse, bah les enfants, ils ont dit « Allô, papa », voilà. Puis il aurait rappliqué le temps que la maman aille mieux, qu'elle revienne de l'hôpital. Mais il fallait vraiment qu'il soit parti et qu'on sache pas où il est. Et puis qu'il soit parti quand Zélie était toute petite, ce que ça expliquait aussi, Zélie, sa colère, sa façon de tout casser. Qu'il soit parti, c'était indispensable pour l'histoire. C'est pour ça qu'il est parti, le père. Pablo, lui, il prend ça au pied de la lettre, les antipodes, il calcule. Mais en fait, oui, ça veut dire aux antipodes, on sait pas où il est.
Pourquoi avez-vous décidé que les personnages aient un passé triste ?
Et un passé triste ? Bah alors, leur passé triste, c'est le papa qui est parti. Bon, ça arrive. C'est tout, parce qu'autrement, bah, ils ont une maman qui est là pour eux. Bon, Garance, elle te dira qu'elle est pénible, qu'elle fait que de l'embêter, et puis qu'elle traite mieux sa petite sœur et ses deux frères qu'elle. Mais autrement, il n'est pas si triste que ça. Et j'ai envie de dire, des enfants qui ont des parents qui sont partis, bah, hélas, voilà, c'est pas si rare que ça. Et avant que la maman ait l'accident, bah, ma foi, ils avaient une vie classique. Alors il y avait César, hein, qui pour lui c'était un peu compliqué parce que tout le monde se moque de lui parce qu'il comprend pas tout. Bon, il y a Pablo qui est hyper angoissé, du fait du départ de son père et qui se sent obligé de porter toute la famille. Tu vas me dire, le départ du père a quand même eu des répercussions sur les personnalités de chacun des enfants. Après, le passé, c'est le départ du père, mais il y a eu des conséquences importantes, ouais.
Avez-vous choisi la première de couverture ?
Alors non, pas plus. En fait, je choisissais pas. Même les titres, alors le titre, c'est compliqué. Moi, quand j'écris une histoire, soit d'emblée j'ai le titre, ça a été le cas du mot d'Abel, soit le titre, j'essaye de le trouver après avoir fini l'histoire, et à ce moment-là, c'est toujours très compliqué. Et parfois, il m'arrive de mettre un titre provisoire, parce que j'ai pas d'idée, et de toute façon, d'après mon contrat, le titre, au final, c'est le choix de l'éditeur. Et là, on n'avait pas, je sais plus comment je l'avais appelé cette histoire, mais pas comme ça, et on n'avait pas d'idée pour le titre. Mais alors, enfin, la maison d'édition, ils ont fait un brainstorming, ça veut dire chacun dit toutes les idées qui lui viennent à l'esprit pour le titre. Et moi, j'ai fait pareil de mon côté. Je crois que ça faisait partie de mon brainstorming à moi, la drôle d'histoire des enfants en raspail. Donc, je leur ai proposé ce titre au milieu de 5 ou 6 autres et ils l'ont accepté. Mais la couverture, bah, je l'ai découverte aussi à ce moment-là. Vous en pensez quoi de cette couverture ? Elle est bien ? Elle vous donne envie de lire le livre ou pas ? Ouais ? Bah, elle sert contre elle son nounours, comme elle n'arrête pas de le déchiqueter. Mais après, moi, à chaque fois, je découvre... Enfin, quand j'écris l'histoire, j'ai une image des personnages. Et après, quand je découvre la couverture, je vois l'image que l'illustrateur avait des personnages. Et parfois, c'est différent de l'image que moi, j'en avais. Voilà. Et notamment César, qui mange tout le temps. Moi, je l'imaginais plus costaud. Voilà, là il fait tout fluet, alors qu'on le décrit dans l'histoire César comme... son costume, le faux papa, le SDF, il arrive à s'habiller avec le costume de César. Bon, mais j'en sais rien en fait. Est-ce que les illustrateurs lisent les histoires ou est-ce que rien qu'un résumé? En fait, je sais pas. Moi, les illustrateurs, je les rencontre pas. Alors parfois, je peux les croiser sur un salon. Par exemple, la personne qui a illustré la drôle d'histoire, je l'ai jamais rencontré, mais je crois que ça serait intéressant un jour que je rencontre un illustrateur, une illustratrice qui a travaillé sur un de mes romans pour savoir justement comment ça se passe du côté illustrateur.
Pourquoi il n'y a pas de collection ?
En fait, pourquoi il n'y a pas plusieurs tomes ? Ouais, il n'y a pas plusieurs tomes parce que l'histoire elle a une fin. Bah, je vois pas ce que je pouvais écrire d'autre, tu vois. Le problème de départ, c'est le départ du père, même si le père est parti il y a déjà longtemps, avec toutes les conséquences que ça a eu sur la famille et l'évolution des enfants. Après, bah, il trouve, alors c'est un peu un conte, hein, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça, c'est sûr. Enfin, ça se passe rarement comme ça. D'ailleurs, si un jour vous êtes confronté à cette situation, ce que je vous souhaite pas, mais n'allez pas chercher un faux papa dans la rue, vaut mieux pas. Je le conseille pas trop. À la fin, voilà, l'histoire est résolue, le problème est résolu, donc il n'y avait pas matière à écrire une suite. Je sais pas ce que j'aurais mis dans une suite.
Est-ce que, par exemple, pour Harry Potter, vous l'avez que lu ou vous avez regardé aussi le...
Ouais, j'ai regardé les films. J'ai regardé pas... Si, je crois que je les ai tous regardés, mais j'étais déçue. J'étais déçue parce que j'ai lu les histoires avant de regarder les films. Donc quand j'ai lu les histoires, bah, je me suis fait une image du monde. Et forcément, quand on fait un film à partir d'un roman, on est obligé de prendre une interprétation. Et c'est forcément réducteur, à mon sens.
Pourquoi avez-vous choisi 4 enfants en particulier ?
Pourquoi pas 5, 6, 7 ? Au niveau du nombre, tu veux dire ? Il fallait déjà que la fratrie soit assez grande, donc il y a assez d'enfants pour nourrir l'histoire. Tu vois, donc je pouvais pas en faire un, deux, ça aurait pu être trois. Je voulais pas non plus qu'il y en ait six, sept parce qu'on allait s'y perdre. Donc trois, quatre. Quatre, j'aimais bien. Un nombre pair, j'aimais bien. Les enfants, ils pouvaient s'associer deux par deux. Je crois que c'est pour ça que j'ai choisi quatre.
Avez-vous le même caractère que d'un des enfants ?
Ouais, c'est ce que j'expliquais, j'ai un peu des traits de caractère des quatre. La gourmandise de l'un, le côté rebelle de l'autre, le côté obsessionnel du troisième, et puis le côté histoire à avoir peur de Zélie.
Est-ce que vous savez que vous avez gagné le Grand Prix des familles ?
Bah ouais, j'ai appris ça merci parce que vous faites partie, je pense, des classes qui ont participé et c'est. Ouais, ça m'a fait très plaisir. C'est toujours. Vous savez, quand on écrit une histoire, j'ai envie de vous dire, une histoire, c'est une rencontre. Une rencontre entre un auteur et puis un lecteur. Et parfois, la rencontre, elle n'a pas lieu. Donc, quand on gagne un prix, on se dit, cette rencontre, elle a eu lieu et ça fait drôlement plaisir, quoi. Un grand merci à vous pour vos questions, pour cet échange, pour cette rencontre. Et voilà. J'ai passé un très bon moment. Merci.
Merci beaucoup Véronique Petit et merci aux élèves de 6e du collège. Il est l'heure de retrouver vos musiques sur Radio Prévert. Bonne journée à tous et à toutes.
Bonjour à tous, vous êtes toujours sur Radio Prévert 105.9 à Chalon-sur-Saône.
Gagner une Coupe du Monde, c'est ce qui représente le plus, c'est la victoire
d'une vie pour l'éternité. Les états de crise, à mon avis, révèlent le meilleur
et le
pire.
Quand on est prof d'histoire, c'est de faire prendre conscience aux élèves que c'est vraiment des choses qui sont passées.
Certains pensent que ce roman est un peu prémonitoire.
La musique, c'est un peu comme le temps, tu sais ce que c'est ? Jusqu'à ce que t'essaies de le définir, tu vois.
C'était l'interview de Radio Prévert.